Alors nous sommes sur Seren, donc c'est Seren, c'est un bateau, un navire classé, on va dire. C'est un cotre bermudien en bois qui fait à peu près 12 tonnes pour 12 mètres, donc c'est une belle maman, on va dire. C'est le bateau de croisière historique des Glénans, c'est le premier bateau de croisière qui a été possédé par les Glénans. Je crois qu'il y a à peu près 1000 chefs de bord qui ont été formés sur ce bateau. C'est ce qui se dit, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est un bateau qui a un avantage certain, c'est que même pour un bateau de 1947, il a un gréement qui est assez familier des moniteurs qui naviguent même sur des bateaux plus modernes. Il n'y a qu'un seul mât, il y a une grand voile avec un système classique de manœuvre, on va dire, si on ne veut pas trop rentrer dans les termes techniques. Avec quelques spécificités liées à l'utilisation du bois pour le mât et pour la baume, et des manœuvres un peu complexifiées par le poids, on va dire, des voiles, des manœuvres, etc. Donc voilà, donc là on est dans le cockpit. Cockpit avec une barre franche. Donc la barre franche, elle est assez intéressante parce que le ressenti du bateau quand on est en navigation, il est très précis, c'est-à-dire qu'on a une transmission de puissance qui est directe entre ce qui se passe sous l'eau et le barreur qui est installé dans sa petite bassine. C'est un petit peu problématique en manœuvre de port parce que en manœuvre de port, on est comme ça, c'est-à-dire accroupi, on a un champ de vision assez limité, on a la manette des gaz en bas, donc voilà, c'est un peu compliqué pour manœuvrer. Mais c'est vachement sympa quand même. Ce bateau, il a la particularité d'avoir une quille longue, donc ça signifie que quand on est en navigation, et un safran très court aussi, quand on est en navigation, la barre est assez lourde. Donc on peut se rendre compte, rien qu'en étant en statique, si on bouge la barre de droite à gauche, c'est pas facile. Avec de la vitesse, ça devient de plus en plus dur. Donc c'est un bateau qui est un peu compliqué à barrer, du fait que la barre soit lourde, et en plus, vu que le bateau est très lourd en lui-même, il va avoir de l'inertie. Donc dès qu'on lui donne un petit angle, il va falloir du temps pour qu'il se remette droit. Et du coup, en général, on commence en faisant des zigzags. Et c'est qu'au bout d'une bonne heure de barre qu'on commence à arriver à aller en ligne droite. Donc voilà, ça c'est assez rigolo. Donc on voit par exemple sur le pont qu'il n'y a pas de taquet classique comme sur les autres bateaux. On est sur des bits d'amarrage, donc comme ce qui se faisait autrefois. Donc c'est un peu particulier. Les stagiaires qui n'ont jamais navigué sur ce type de bateau, ils découvrent d'autres façons de faire des nœuds et d'autres façons d'amarrer un bateau. Ensuite, on va rentrer dans la timonerie. Donc on a une descente assez large et assez praticable. Quand on arrive dans la timonerie, juste sur les deux côtés, donc tribord et bâbord, on a deux bannettes, donc deux bannettes de couchette, qui sont les bannettes du chef de bord et de son second, d'accord? Avec la table à cartes en face, enfin les tables à cartes parce que c'est un bateau qui a quatre tables à cartes escamotable. Là, il y en a une première. On peut travailler sur une carte entièrement dépliée, ce qui est vachement bien. On fait plus du tout de bateau comme ça. C'est-à-dire que maintenant, les bateaux ont des tables à cartes extrêmement réduites. Du coup, on ne peut pas étaler des cartes. Là, on a la deuxième table à cartes, etc., etc. Donc, on a vraiment un espace de travail dédié à la navigation qui est hyper intéressant. Au-dessus de ces tables à cartes, on va avoir le tableau électrique avec le panneau moteur, donc là le tableau électrique qui gère toute l'électricité du bord, avec des voltmètres et des ampèremètres. Là, on a la pompe de cale, ici, automatique ou manuelle. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle le tridata, donc c'est l'appareil qui nous sert à connaître la profondeur qu'il y a sous le bateau et sa vitesse, ainsi que son log. Donc le log, c'est un peu le compteur kilométrique du bateau. Après, on a le GPS, donc un GPS assez simple, qui nous donne juste une position, c'est pas un GPS traceur comme s'il y a sur les nouveaux bateaux, donc il n'y a pas de carte dessus, c'est juste une position avec des coordonnées en longitude et en latitude. Bon, après un petit lecteur CD pour écouter de la musique et la VHF rudimentaire mais qui marche bien quand même. Sur le côté ici, on a l'horloge du bord, le compas de relèvement qui a son petit étui, les stylos et très important le baromètre du bord pour connaître la pression atmosphérique et anticiper les changements météo. Alors, juste sur le côté bâbord de la table à cartes, on a toute une série de rangements. Donc, on a ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque. Donc là, quand on ouvre, on tombe sur des manuels d'astronomie et de navigation, un recueil de tables de navigation des éditions maritimes d'outre-mer, qui est un peu déchiré d'ailleurs. Un recueil des tables permanentes pour la navigation côtière, astronomique et orthodromique, écrit par Jean-François Vaillant, que certains connaissent peut-être. Une Bible des Glénans, bien sûr. Des classeurs de sécurité, donc avec les explications, en gros la documentation technique du bateau. On a un Starfinder. Alors qu'est-ce que c'est un Starfinder? C'est un petite glissière mécanique en plastique qui nous indique la position des étoiles en fonction des saisons et de l'hémisphère. Voilà, le Starfinder avec la voie lactée au centre. Donc ça c'est pour la navigation astro. Donc maintenant, ces Starfinder et ces documents de navigation, ils commencent à être supportés par l'électronique. Quand on voit qu'avec les iPhones, maintenant, on peut reconnaître des étoiles qui sont à peine visibles à l'œil nu, ça simplifie quand même pas mal la nav. Voilà donc pour la bibliothèque. Ensuite, dans ces mêmes tiroirs, on va avoir la balise de géolocalisation en cas d'urgence. Ça, c'est vachement important. Et après, un jeu d'outils, de pinoches, de lampes, de piles, de poulies. Là, on a des jumelles qui sont ici. On a deux paires de jumelles. Du scotch à voile, une sonde à main, des boulons. Voilà, on a plein de trucs. On a du matériel de rechange. Là, on a voilà, du sando élastique. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un appareil photo magnifique. Et là, on ouvre le dernier tiroir de navigation, un des plus importants. Donc là, on tombe sur les instructions nautiques, les signaux à feu de brume. Voilà, on a tout un panel de documents de navigation. On a vraiment de quoi faire. Je pense qu'on a tout ce qui se fait, tout ce qui s'est dit quasiment. Il nous manque juste un truc dans ce bateau, un truc que j'ai essayé de trouver cette semaine, c'est les éphémérides nautiques. Donc en gros, c'est... la course de notre astre solaire dans le ciel en fonction de la saison et qui ne s'édite plus. Voilà, donc j'ai appris ça cette semaine, c'est qu'il n'y a plus d'édition papier des éphémérides nautiques. Donc j'ai pas trop compris pourquoi.
Et vous en avez besoin en tant que chef de bord?
Alors, ça dépend. En fait, on en a besoin pour faire de la navigation astronomique. Mais c'est pas essentiel parce que la navigation astronomique c'est essentiellement pour le large, mais là c'était juste pour faire découvrir aux stagiaires. Mais bon, on a pu faire beaucoup d'autres choses, donc c'est pour l'utilisation du sextant d'ailleurs qui se trouve sous les marches de la descente. Voilà, ici, sextant assez classique, assez rudimentaire, mais qui marche très bien. Donc oui, ces éphémérides on en aurait eu besoin pour faire quelques exercices, mais on a pu faire autre chose. Sous la descente toujours, on a les mallettes de cartes. C'est-à-dire qu'on a une mallette de toutes les cartes pour le périmètre Iroise, une mallette pour le périmètre Concarneau, donc qui descend, le périmètre Concarneau descend jusqu'à Belle-Île à peu près, et une mallette de périmètre Sud, donc c'est en gros, ça va jusqu'à l'Île-Dieu, voire les Sables d'Olonne. Après, sur certains stages sur Sorène, on embarque des cartes de l'Irlande du Sud ou on embarque des cartes de la Galice, parce qu'il y a des stages qui vont assez loin en fonction de la durée du stage et du niveau des stagiaires. Voilà, hop, ensuite ici, sur le tribord, toujours de la table à cartes, on a, on va dire, un espace vide dédié au rangement des vestes de quart des équipiers. Donc, c'est-à-dire quand on est en quart, les équipiers qui rentrent dans le bateau vont poser leurs vestes ici pour pas que ça goûte dans tout l'intérieur du bateau. Dans cet espace, on a aussi la trousse à pharmacie, la boîte à outils, la boîte de voilerie, la chaise de mât, le cône de marche moteur, la boule de mouillage, la pince coupe au banc essentielle, et un bidon contenant tous les feux, toute la pyrotechnie de détresse, donc en gros les feux à main, les fusées parachutes, les feux anti-collision blancs, les fumigènes, etc., etc. Et dernier petit instrument de la table à cartes, sur la table à cartes, la BLU. Donc ça ressemble un peu à un ghetto blaster, à peu près. Et ça va nous servir à prendre les bulletins météo au large. Donc en général, c'est les bulletins soit de la BBC, soit de France Inter. Donc il faut pointer, faut essayer de pointer Londres avec l'antenne et puis de régler sur la petite molette notre fréquence, d'attendre l'heure de la diffusion du bulletin météo, qui est marqué juste au-dessus. ainsi que les fréquences, et de noter, de retranscrire. Alors en général, les bulletins météo en anglais, on les enregistre parce qu'ils parlent tellement vite et on comprend tellement pas grand-chose qu'il faut se leur passer plusieurs fois pour arriver à cerner un peu ce qui se passe. Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir descendre d'un cran pour ouvrir le plancher de la timonerie pour découvrir le moteur. Donc Seren n'a pas toujours eu un moteur. Avant, les départs et les arrivées se faisaient exclusivement à la voile. Puis il y a un moment où ça a commencé à le besoin a commencé à se faire ressentir, et puis je crois que c'est aussi les normes qui ont voulu ça. Donc il y a eu un moteur qui a été installé, mais c'est vraiment un moteur qui a été installé sur un bateau qui n'avait pas été conçu pour au départ, en tout cas il me semble. Donc voilà, donc là c'est un petit moteur, tout ce qui est le plus classique, un Volvo Penta. Pas extrêmement puissant au vu du poids du bateau. Et voilà, qui marche très bien, ma foi. En tout cas, moi, il m'a très, très bien servi cette semaine.
On voit bien la construction classique.
Ah oui, alors voilà, ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est que tout est apparent. C'est-à-dire il n'y a pas de faux plafond, il n'y a pas de cache. C'est-à-dire qu'on voit bien les varangues, on voit bien tous les bardages en bois. Et d'un côté, c'est vachement intéressant pour les stagiaires. Comme ça, ils se rendent compte de la méthode de construction. Et en même temps, pour la sécurité, c'est-à-dire qu'on a un accès visuel direct à toutes les parties sensibles du bateau. On peut voir, on peut inspecter les fonds très rapidement, on peut inspecter les bordées très rapidement. Donc pour détecter une anomalie, c'est quand même plutôt pas mal. Et pour faire des réparations, c'est pareil, c'est plutôt sympathique. Alors après, pour réparer du bois, il faut quand même avoir un minimum de savoir-faire qui est quand même un petit peu perdu. Enfin, moi, je vous avoue que je ne sais pas réparer du bois. Maintenant, les moniteurs savent plutôt faire une strat, donc préparer les bateaux modernes en fibre de verre, mais pas trop remplacer un bardage de bois. En même temps, on vit avec son temps. Donc là, on arrive dans la cuisine, partie cuisine. Moi, je trouve que c'est la partie la mieux conçue du bateau. Peut-être un peu bas de plafond pour certains. Donc on a une cuisine double feu. Gyroscopique. Alors l'avantage qu'elle a, c'est que contrairement au double feu des bateaux classiques qui sont collés les uns aux autres, dans lesquels on ne peut pas mettre une cocotte et une poêle en même temps, sinon ça passe pas, là on a un feu qui est un peu plus haut que l'autre. Les deux sont reliés par une câble, du coup ils ont la même inclinaison en permanence, et du coup ça permet de faire la cuisine vraiment dans quasiment tout type de temps. On va dire. En même temps, on a un petit range épices, on a la petite lampe ici, hein. On a les petites boîtes sur tribord qui nous servent à ranger les condiments. Voilà, on a une petite glacière sous la gazinière pour conserver du frais. Mais en général, le frais, on va plutôt le mettre dans les fonds. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ça fait pas trop. Dans les fonds, il y a toujours un petit peu d'eau, ce qui est normal, parce que c'est un bateau en bois. Mais il y a aussi de la place et il fait frais. Du coup, c'est pas mal pour conserver les aliments. Il faut juste les mettre de façon étanche. Et là, on a un accès direct. Juste pas mettre les pommes de terre à même le sol, parce que sinon vous les retrouvez bien germées. Toujours dans la cuisine, on va avoir deux pompes qui sont reliées à deux robinets différents et sous lesquels on peut placer un seau dans un espèce de porte-seau qui ressemble à un porte-gobelet. Donc sur tribord, on a une pompe à pied qui nous fournit en eau de mer. Donc là, elle est connectée directement à l'eau de mer de l'extérieur. Quand on veut faire cuire les pâtes, on met un tiers d'eau de mer, deux tiers d'eau douce. Et au-dessus de la gazinière, on a une pompe à pied qui donne de l'eau douce. Je ne vais pas trop l'actionner pour en mettre de partout. Quoi. Ça, c'est l'eau douce. On a toujours un rangement vaisselle sur le bâbord. Voilà, de toute façon, après, on n'a pas besoin de plus. Un extincteur des couvertures anti-feu au cas où, la coupure de gaz qui est à disposition. Et voilà. Ensuite, on passe plus en avant, et là, on arrive vraiment dans le lieu de vie. Avec Velux, quand même, attention, hein, un joli puits de lumière. Donc là, on arrive dans le carré. Donc carré qui a une forme un petit peu triangulaire, comme dans tous les bateaux. Et de part et d'autre sont disposées les bannettes des équipiers. Donc il y a 4 couchettes à tribord, 4 couchettes à bâbord. Donc on peut mettre 8 équipiers dans le carré. en quinconce. Donc ça fait un petit peu bannette cercueil, mais on y dort très bien. Il y a des toiles anti-roulis pour pas tomber quand on est à la gîte. Des rangements de part et d'autre des bannettes, des rangements sous les bannettes. On pourrait appeler, moi j'appelle ça des boîtes à chaussures. Donc il y a de l'espace de rangement. On peut vraiment stocker plein de choses. Des mains courantes de partout pour ça, pour pas tomber. Le petit puits de lumière qui est quand même vachement agréable. Hein. Sinon ça serait un petit peu glauque. En fait. Sous la table du carré, on va avoir. Celle-là, ouais. On va avoir deux vaches à eau. Je crois qu'il y en a une de 80 litres et une de 50 litres. Je suis pas sûr des valeurs. Donc on a deux vaches à eau qui ont une trappe de visibilité. Donc les vaches à eau se remplissent de l'intérieur. C'est pas comme sur les bateaux modernes où il y a un accès de l'extérieur. Là, il faut vraiment amener le tuyau par le puits de lumière et remplir à l'intérieur. Ensuite. Donc là, on est encore un petit peu plus à l'avant, on est devant le carré, on est au niveau, quasiment au niveau de l'étrave. Donc là, on arrive dans une partie vachement intéressante du bateau qui est la soute à voile toilette baïa mouillage. Voilà, multifonction et baïa boot. Donc là, on rentre directement en face de nous, on a le trône, vachement bien, dos à la marche, ce qui est vachement pratique, et central, contrairement à d'autres bateaux où il est latéral, là c'est vraiment centré, donc on peut bien se tenir et être tranquille pour faire son affaire. On a des rangements de part et d'autre sur tribord et sur bâbord. Donc là, on voit qu'il y en a 10. Donc il y a un rangement par équipier. En gros, enfin, on peut considérer ça comme des rangements d'effet personnel. Après, là, nous, on a mis du papier toilette, du boot, on a mis autre chose. On a un petit robinet qui est relié à elle. À... Alors celui-là, oui, c'est la petite vache à eau. Donc c'est de l'eau douce qui coule dans ce robinet. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les puits de chaîne qui descendent de part et d'autre, donc ça c'est nos deux mouillages, mouillage lourd et mouillage léger. Bon, il n'y en a pas un qui est plus lourd que l'autre, en fait il faut quasiment le même poids tous les deux, avec de la longueur de bout. Ensuite, quand on vient de plus devant, là on a vraiment le bordel entre guillemets. Là on a toutes les voiles stockées et on a tous les bouts stockés, toutes les écoutes, toutes les manœuvres en spare, donc en plus au cas où. Et les brassières que j'ai mis là, on peut les mettre ailleurs. Donc là, si je vous dis pas de bêtises, si on énumère les voiles, dans ce rangement, on a donc, je vais donner leur nom technique et j'espère ne pas me bourrer, on a le génois, le Yankee 1, le Yankee 2, le Yankee 3, le Nao, la trinquette de route et la trinquette de je sais plus quoi, et le tourmentin. Je crois qu'on a à peu près ça là-dedans. On a une quantité de boot assez astronomique, tous blancs parce que sinon ce serait pas rigolo, on s'y retrouverait, ce serait trop facile. Et quelques haussières, et voilà. Donc là, c'est vraiment la partie stockage. C'est là où on range les pare-battages. Quand on est en navigation. Et c'est aussi un accès extérieur, donc on voit de part et d'autre des toilettes, il y a des petites marches qui ont été savamment installées pour pouvoir sortir. Et donc là, on arrive, quand on sort, devant le mât,